Le dévoilement de Dieu numéro 58. Afin que vous sachiez que vous faites écho à la vie. Le 21 octobre 2017. Brian Kozurek. Pasteur. 1 Jean 5.13 Je vous ai écrit ces choses. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Prions. Remarquez qu'il a dit. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle maintenant. C'est-à-dire différent de juste faire écho à la vie. Tel que nous voyons dans 1 Jean 5.10. Celui qui croit au Fils de Dieu a fait écho à ce témoignage en lui-même. Celui qui n'y croit pas Dieu le fait menteur. Puisqu'il n'y croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. 12 Par conséquent, celui qui a le Fils fait écho au Fils a fait écho à la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'est fait pas écho au Fils de Dieu n'a pas n'est fait pas écho à la vie. Maintenant, remarquez au verset 10, il nous dit que si nous croyons au Fils de Dieu, nous faisons écho au témoignage de la vie du Fils de Dieu en nous. Et puis il nous dit au verset 11 et voici ce témoignage. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la vie éternelle. Quelle est-elle la preuve que Dieu nous a donné la vie éternelle? C'est-à-dire que nous faisons écho au témoignage ou au témoin en nous. Et puis il dit et que cette vie est-elle dans son Fils. Ainsi, nous voyons que la même vie qui a vécu dans son Fils vit en nous aussi. En effet, notre vie est un écho de sa vie. Puis au verset 12. Il dit, celui qui a le Fils fait écho au Fils a fait écho à la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'est fait pas écho au Fils de Dieu n'a pas n'est fait pas écho à la vie. Maintenant, c'est en soi une chose très importante à comprendre. Mais le verset 13 est encore plus important car au verset 12. Nous examinons la capacité de faire écho au Fils de Dieu dans le discours et dans la vie. Mais au verset 13, nous recevons la capacité de savoir et de comprendre que nous faisons en effet écho au Fils de Dieu dans notre discours et dans notre vie. Et cette capacité à savoir que vous avez la vie est tellement importante, parce que c'est elle qui vous donne du repos. Et si nous savons que nous faisons écho à sa vie, notre nature entière est changée et nous le savons. Et par conséquent, notre relation avec Dieu a changé. Et nous le savons aussi. Et par conséquent, nous sommes entrés dans une telle paix que personne n'y pourra jamais nous priver de notre confiance ou assurance dans notre relation avec Dieu, comme étant notre Père et Jésus-Christ, comme étant notre grand frère. Encore une fois, nous constatons que le verbe avoir utilisé ici a également été traduit du mot grec écho. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez, que vous faites écho à la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, nous n'examinons pas seulement le fait que vous puissiez faire écho à la vie même de Christ, mais aussi au fait que vous savez que vous faites écho à sa vie. Et si nous savons que nous faisons écho à la vie, alors nous savons, très certainement, que nous faisons partie de Dieu qui est à la grande fontaine de vie. Vous savez qu'un écho n'est pas seulement quelque chose qui est fait à partir d'un apprentissage du type par cœur, comme si vous pouvez simplement répéter quelque chose, car simplement répéter n'est signifie pas que vous savez et comprenez réellement ce que vous répétez. Mais de savoir que vous vous faites l'écho des mêmes paroles que le Fils, signifie que vous comprenez également ce que sont ces paroles que vous dites. Nous avons épuisé plusieurs sermons à vous montrer l'importance non seulement de croire mais de savoir ce que vous croyez. Et c'est juste ça. C'est une chose de faire écho mais c'est une bien plus grande chose de savoir que vous faites écho. Car beaucoup de gens peuvent citer la Bible mot pour mot sans même savoir ce qu'ils disent. Le monde confessionnel est rempli de telles personnes. Et Jésus a tout le temps été confronté à ce genre de personnes. Dans son sermon qui dites-vous que c'est Dîme 27 décembre 64 frère Branham dit, 70 et en plus, là l'Église l'a vu dans la manifestation de sa grande puissance. Manifestant quoi? Il n'est mis manifesté pas un credo. Il manifestait la parole. Il était lui-même la parole ointe. Et lorsqu'il verse cela se produire, la manifestation, le Messie oint, ils rejetèrent cela. Ils n'en voulurent point. Ce n'était pas à leur goût. C'est-à-dire cela qui est pitoyable. Rappelez-vous que Paul nous dit dans Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire, huit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ainsi, leur réaction même à la parole manifestée a prouvé qu'ils n'aimaient, connaissaient pas ni n'aimaient, comprenaient la parole écrite. Car lorsque la parole même écrite s'est manifestée dans la chair, ils l'ont rejetée voire même crucifiée. Et c'était ça la différence entre les élus qui l'ont vu et l'ancien et ceux qui l'ont vu mais n'aimaient l'ont pas su ni comprise. Ça, c'est 1 Jean 1.1 ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, moins de car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, moins 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Tous deux professaient croire à la parole écrite, mais lorsqu'elle s'est manifestée sous la forme de la vie de Dieu dans le Fils de Dieu, un groupe l'a reçue tandis que l'autre a refusé la manifestation de la révélation. Et n'oubliez jamais que la Bible n'a pas d'interprétation privée, comme Pierre l'a dit dans 2 Pierre 1.20 sachant tout, d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est émise, peut être un objet d'interprétation particulière. Car, après tout, Dieu interprète ses propres paroles en la faisant s'accomplir. Ainsi, lorsque la parole se manifeste, c'est-à-dire la bonne interprétation. Et un groupe a accepté l'interprétation de Dieu de sa propre parole en acceptant sa manifestation, tandis que l'autre groupe a rejeté l'interprétation de Dieu parce qu'ils en ont rejeté la manifestation. Et cela prouve qu'il n'est mis, savait tout simplement pas, même s'il le prétendait. Puis, frère Branham poursuit, pensez-y donc. Exactement comme à d'autres époques. 71 voyez. Tous avaient leur propre interprétation de la parole. C'est-à-dire ce qui, la raison pour laquelle Israël Néhémie reconnut pas Moïse. C'est-à-dire la raison pour laquelle le monde Néhémie reconnut pas Noé. C'est-à-dire la raison pour laquelle tous les prophètes Néhémie furent pas reconnus. Les gens avaient leur propre interprétation de la parole. Mais Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie. Rejeter le message de Noé, c'était rejeter Dieu. Rejeter Noé, c'était périr. Rejeter Moïse, c'était périr. C'était. Ils étaient les messies oints pour leurs âges respectifs, la parole qui était promise pour cet âge-là. Et lorsque Jésus est revenu, il était la plénitude de la parole. Dieu lui-même ayant revêtu la forme humaine, avec de la chair et des osées, loin. Ils auraient dû voir cela. 72. Mais, vous voyez, leur monde ecclésiastique avait tellement ajouté ici et retranché là et ainsi de suite, au point qu'il y avait une grande confusion qu'ils faisaient confiance à leur église plutôt qu'à la parole. Et lorsqu'ils ont vu leur église ointe, alors ils ont cru que quelque chose de grandiose se passait. Et lorsqu'ils ont vu la parole ointe, alors ils ont dit, Cester du fanatisme. Cet homme est un démon. Cester Belzébul. En effet, c'était tellement contraire à leur église que, au credo de leurs églises et à ce qu'ils avaient fait. Et il en était ainsi à la venue de chaque prophète, l'église était plongée dans une grande confusion. Vous savez que nous voyons tous les jours la même chose en politique, parce que c'est terre en ça que consiste la politique. Les démocrates condamneront un républicain pour avoir fait quelque chose, pour laquelle ils refuseront de condamner les leurs. Et ce n'est-ce pas qu'en politique, mes frères et sœurs, c'est les mauvaises voies de toute l'humanité. Je l'ai vu dans ce message même, et même parmi nos propres groupes dans ce message. Je me souviens, il y a des années, des prédicateurs ont humilié d'autres prédicateurs pour avoir fait quelque chose de très charnel, et pourtant quand les prédicateurs de leur propre groupe ont fait la même chose, ils n'ont rien dit. Et je l'ai vu avec la femme d'un certain prédicateur qui portait des vêtements tellement fins et presque transparents qu'on devait tourner la tête et détourner le regard quand cette femme entrait dans la pièce, parce qu'on pouvait voir à travers son chemisier transparent. Mais est-ce que les prédicateurs corrigeaient-ils son mari? Aucunement. Mais cependant, si la femme d'un prédicateur d'un autre camp s'habillait ainsi, les critiques n'émutariraient pas. Et je me suis dit que ce n'est-ce pas bien? Quelqu'un devrait dire quelque chose. Cela me dégoûtait de voir de tels humanismes dans l'église du Dieu vivant. Et quand j'ai vu ça la première fois, le Saint-Esprit m'a cité ce verset Romains 2.15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend un témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Accusant ceux qui n'y font pas partie de leur groupe tout en excusant ceux qui font partie de leur groupe. Cela me fait savoir qu'ils faisaient exception de personne. L'apôtre Paul a réprimandé les enseignants de la loi en son temps, comme nous voyons dans Romains 2, parce qu'ils enseignaient les autres d'une certaine manière tout en faisant le contraire de ce qu'ils enseignaient. Romains 2.17 Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, 18 qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, 19 Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, 20 Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. 21 Toi donc, qui enseignes les autres, tu Néhémie t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de Néhémie pas dérober, tu dérobes. 22 Toi qui dis de Néhémie pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. 23 Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. 24 Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les pagènes, comme cela est écrit. 25 La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. 26 Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision Néhémie sera-t-elle pas tenue pour circoncision? 27 L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, Néhémie te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? 28 Le juif, ce n'est pas celui qui en est allé dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. 29 Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif Néhémie vient pas des hommes, mais de Dieu. Nous poursuivons avec ce que frère Branham disait dans son sermon, qui dites-vous que c'est Esther? Dîme 27 décembre 64-82 À propos, Savez-vous que la parole de Dieu n'est-elle jamais venue à un théologien? Trouvez le passage des Écritures où cela est-il déjà arrivé. La parole n'émise vient pas au théologien. Pas du tout. Mais, voyez-vous, si la parole était rendue manifeste aujourd'hui, la parole pour notre temps, elle le serait conformément au goût de la parole de Dieu, et non conformément au goût de la conception de quelqu'un. Dieu prendrait sa parole qu'il a promise pour ce jour, il l'oindrait et la chose arriverait. C'est-à-dire tout. Il n'y a pas moyen d'empêcher que cela arrive. Cela arrivera de toute façon, peu importe ce que l'Église dit et ce que les autres croient. Et cela, Dieu le fera. Quoi qu'il en soit. Il n'y aurait que très peu qui en sauront quelque chose. C'est-à-dire vrai? Seulement un petit nombre. Il en a toujours été ainsi. Ainsi, vous voyez, quand Dieu dit qu'il y aura des fils de Dieu qui se manifesteront comme fils de Dieu, très peu le verront, mais certains le manifesteront réellement. Quand Dieu dit qu'il y aura des fils de Dieu qui parviendront à l'adoption, très peu le verront et encore moins le manifesteront. Mais cela Néhémie veut pas dire que c'est une fausse doctrine. Dieu interprète sa parole en la faisant s'accomplir. Quand nous lisons que Dieu aura des fils qui seront semblables à l'image du fils âgé, très peu oseront le croire, mais encore moins l'entendront, le reconnaîtront et agiront en conséquence en emboîtant le pas. Mais ce n'est pas parce que vous Néhémie le voyez pas dans votre propre vie que cela Néhémie se produit pas en ce moment quelque part. Par conséquent, lorsque nous parlons de faire écho à la parole de Dieu, il doit y avoir une compréhension de cette parole pour que nous en fassions écho, sinon l'écho Néhémie donnera pas ce son certain, mais un son incertain. Ainsi, nous étudions ce matin quelque chose que Dieu nous donne, par grâce, d'avoir ce savoir, de savoir que nous faisons réellement écho à la vie même du Fils de Dieu et donc à la vie qui a été manifestée dans le Fils. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous faites écho à la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Comme je l'ai dit plus tôt, sachant que nous faisons écho, nous recevons une certaine paix et un certain repos de nos propres œuvres, et entrons dans une assurance de foi qui nous introduit dans une paix qui surpasse tout entendement. Nous nous retrouvons à dire la même chose que le prophète lorsque nous sommes confrontés à la même incrédulité à laquelle il a été confronté. Je n'ai sais pas combien de fois cela m'est arrivé lorsque les hommes soulèvent une question ou défient notre compréhension de la doctrine de Christ, et je trouve des paroles qui sortent de ma bouche auxquelles je n'avais même pas pensé. Mais quand je les vérifie plus tard, je découvre que frère Branham avait dit ces mêmes paroles et donc cela apporte du réconfort. Souvenez-vous, Jésus a dit, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est aux cieux. » Et sachant que le mot « confesser » a été tiré du grec « homologéo » qui signifie la même parole, « homo » signifiant la même chose, et « loge » signifiant « parole ». C'est-à-dire pourquoi celui qui dit les mêmes paroles à mon sujet, le Fils de Dieu, je le dirai les mêmes paroles à leur sujet devant mon Père Céleste. Et quelles sont ces mêmes paroles que nous disons de lui? Qu'il dira de nous? Il est mon frère. Et Néhémie, trouvez-vous pas réconfortant de vous retrouver à dire les mêmes paroles que le Fils de Dieu? Parce que ce sont les paroles de vie qui sont sorties du Père. Car Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Maintenant, ce repos qui est prophétisé pour cette heure-ci, Esther en grec le mot parousia qui signifie une certaine audace à parler. Le mot parousia signifie assurance, confiance affichée, absence de peur lors de prise de parole. Ce mot parousia Esther un mot grec utilisé dans la Bible pour parler d'assurance, de confiance affichée, et d'absence de peur. Cet état d'assurance, De confiance et d'absence de peur est-elle la conséquence directe de la parousia de Christ et de sa manifestation dans son vrai caractère et le fait que lorsqu'il révèle ouvertement qu'il est-elle et pourquoi il est-elle ici? Cela introduit les élus dans une position où ils savent qu'on prenne leur position en Christ. Cela nous donne de l'audace ou du courage et nous permet de n'aimer pas avoir honte devant lui. Et ainsi en examinant ce mot, parousia et comment il se rattache à la révélation du Christ en cette heure. Dans Jean 7.13. Nous lisons, personne. Toutefois. Néhémie parlait parousia ouvertement sans crainte. Par crainte des Juifs. Cela montre clairement que la parousia est-elle en rapport avec le fait de Néhémie pas avoir peur et ces gens Néhémie. Pouvait pas avoir de parousia qui est-elle une absence de peur et puis avoir peur des Juifs en même temps. Ils étaient trop préoccupés par ce que les autres pensaient et pas assez préoccupés par ce que Dieu lui-même pensait. Ils n'avaient donc pas de parousia. C'est Esther là qu'intervient la parousia. Quand nous sommes devenus si remplis du sens d'honneur et Dieu que nous n'avons pas d'autre pensée que ces pensées dont nous sommes disposés et désirons exprimer. Mais ce n'est pas le cas quand les gens recherchent une position vis-à-vis de l'homme. Parce qu'alors ils choisiront leurs mots pour plaire à l'homme. Mais ceux qui ont la parousia sont ceux qui, parce qu'ils savent qui ils sont et qu'il est ici, sont prêts à Néhémie dire que ce qu'il a dit, et à Néhémie faire que ce qu'il dit de faire. Ils ont la plus grande estime dans la parole confirmée de leur, et aucune autre parole n'a de la valeur à leurs yeux. Nous voyons aussi ce mot dans 1 Jean 2.28 et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il fainera, sera manifesté dans son vrai caractère, nous ayons de la parousia, et qu'à sa parousia nous n'ayons soyons pas confus et éloignés de lui. Nous voyons donc que la parousia fait que nous n'avons pas honte de lui. Cela vous fait savoir que les enfants de Dieu doivent entrer dans cet état de parousia ou cette absence de peur lorsque s'accomplit la grande présence et la grande révélation de Christ, sa manifestation dans son vrai caractère. Et c'est destiné à se produire en cette heure. Rappelez-vous dans 1 Jean 3.1-2. On nous dit que quand il va fainéant nous aussi, nous allons nous fainéant parce que nous verrons son fainéant. 1 Jean 3.1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde n'a aimé nous connaît pas, c'est Esther qu'il n'a aimé l'a pas connu. De bien-aimés, nous, sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, fanero. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, fanero. Nous serons semblables à lui, parce que, nous le verrons tel qu'il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Donc, en substance, nous commençons à lui faire écho, et en lui faisant écho, nous commençons à manifester sa parole au monde, et ainsi comme son vrai caractère nous est révélé ou nous est ouvertement manifesté, nous, à notre tour, commençons à manifester ouvertement notre véritable caractère qui était prédestiné en nous avant les fondations du monde, qui est la parole, qui se manifeste de nouveau, et l'expression de nouveau signifie un autre écho de l'originel. Et nous savons que puisque la parole parle est la semence originelle, alors c'est la vie originelle. Et puis chaque fois qu'elle se manifeste, elle ferait écho à la semence initiale, encore et encore et encore. Par conséquent, au moment où nous entrons dans cet état d'assurance décomplexée et de confiance affichée, nous savons que c'est la conséquence du fait qu'il nous est apparu. Parce que notre manifestation est la conséquence de sa manifestation. Notre connaissance est le résultat de sa connaissance. Et nous connaîtrons comme nous sommes connus. Cet état est la conséquence du dévoilement de Christ. C'est pourquoi nous étudions ce sermon de frère Branham. Il vient non seulement comme mari, mais aussi comme notre avocat et notre juge. Comme mari, il n'est ni doit pas témoigner contre nous, et comme notre avocat, il est notre avocat de la défense, et comme notre juge, l'affaire est classée. Nous sommes prédestinés à n'aimer pas tomber. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Car il est le chef et le consommateur de notre foi. Car après tout, c'est Dieu qui produit en nous à la fois le vouloir et le faire. Comme Paul l'a dit dans Galates 2, nous vivons par la foi du Fils de Dieu. Par conséquent, c'est par sa foi que nous devons vivre, et non la nôtre. Par conséquent, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que pouvons-nous demander d'autre? Cela apporte une confiance, comme jamais auparavant, quand, celui qui a donné la parole est ici pour la confirmer. Comme frère Branham dit dans son sermon Toutes choses Psalm 24 novembre 62 et 66 Sester terminé. Sester fini. Le Dieu qui a fait la promesse est ici pour la confirmer. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le Dieu qui l'a envoyé était avec lui et en lui. Il a dit, si je n'ai mis fait pas ses œuvres, n'ai me croyez pas. Et si je n'ai mis vous dit pas la vérité, il n'ai mis confirmera pas cela. Mais le Dieu qui a envoyé ses disciples a envoyé cette œuvre de Dieu dans le pays. Il accompagne cela afin de montrer qu'il accompagne cela. Les signes même qui ont été promis confirment sa présence. Nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. À nouveau, l'apôtre Jean utilise ce mot, parosia dans 1 Jean 4.17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de la parosia au jour du jugement. Et comment savez-vous cela? Parce que vous faites écho à ce qu'il a dit, et vous vivez ce qu'il a vécu. Remarquez, voilà encore cet écho. Tel il est, tel nous sommes aussi. C'est au jour de la présence du juge que nous trouvons dans Jacques 5.8 vous aussi. Soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. 9. Néhémie vous plaignez pas les uns des autres. Frères. Afin que vous Néhémie soyez pas jugés, voici. Le juge est à la porte. Apocalypse 3.20 voici. Je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et Jean 12.48 Celui qui me rejette et qui n'aime reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. 49 Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je l'ai dit comme le Père me les a dites. Nous voyons donc que Jésus nous dit que les paroles qu'il dit Néhémie sont que ce que Dieu a déjà dit. Par conséquent, son assurance est dans le fait de savoir qu'il Néhémie dit que ce que Dieu a déjà dit. Et cela apporte la parosia, qui est une absence de peur. Cela nous fait également de savoir que cette parosia vient comme conséquence de le voir tel qu'il est vraiment. Parce que, tel il est, tel nous sommes aussi, et c'est ainsi que nous savons que nous faisons écho à la vie éternelle. Ainsi, vous pouvez voir que cette seule déclaration nous assure d'énormes bénédictions et de l'assurance ou l'absence de peur. Comment Dieu pourrait-il renier une partie de lui-même? Il n'est aimé le peut pas. Alors, comment pourrait-il renier sa propre semence? Il n'est aimé le peut pas. Alors qu'avons-nous à craindre? Il est là pour s'assurer que nous n'y tomberons pas cette fois-ci. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8 juste après nous avoir dit que nous étions prédestinés quand nous étions encore en Dieu, d'être à l'image du Fils premier-né 29 car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment Néhémie nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34 Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? 36 Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature Néhémie pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Éphésiens 3.12 nous lisons, en qui nous avons, par sa foi, la parousia de nous approcher de Dieu avec confiance. Remarquez, cette assurance décomplexée ou cette absence de peur vient en recevant sa foi. Cela nous dit que cela vient par sa foi à lui. Par conséquent, ce n'est pas notre foi, mais sa foi qui produit cela. Jésus a été le premier à afficher cette audace sans entrave, parce qu'il savait qui il était et il savait aussi qu'il avait envoyé comme nous le trouvons dans les chapitres 6, 7, 8, 9 de Jean et 10 où il était prêt à s'opposer à toute l'organisation pharisienne en crachant la vérité au visage des pharisiens et des chefs religieux de son temps, et en leur passant un savon à bras raccourcis. Nous voyons encore l'apôtre Paul parler de cette parousia dans Hébreux 4.16 Approchons-nous donc avec parousia du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Dieu veut que nous entrions en sa présence par révélation avec une pleine assurance, et il nous a assuré que, ce faisant, nous recevrons non seulement sa miséricorde mais aussi sa grâce qui répondra à toutes les exigences dont nous pouvons manquer. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Nous devons être convaincus qu'il nous écoute. Le fait même qu'il soit descendu en cette heure et qu'il se soit dévoilé à sa semence et nous a fait le connaître comme jamais auparavant, et qu'il a établi une relation avec nous, nous fait voir combien il nous aime et combien il veut communier avec nous. Puis, voyons à travers la parole révélée de cette heure notre position Christ, et notre relation avec Dieu comme notre tendre Père, nous comprenons plus pleinement encore notre relation qui a commencé en lui avant les fondations du monde, où nous étions dans ses pensées et qui est enfin manifestée en cette heure. Quelle assurance cela doit nous apporter? Nous trouvons encore dans Hébreux 10.35 N'abandonnez donc pas votre parousia, à laquelle Esther attachait une grande rémunération. Il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus, mais nous échouons à recevoir ce qu'il nous a déjà assuré par promesse. Par conséquent, Paul nous dit ici, que nous devons d'abord recevoir cette parousia afin de recevoir toutes les autres bénédictions prédestinées, surtout ces promesses liées à notre placement et à notre héritage. Et remarquez ici qu'il nous dit qu'à notre parousia est attachée une grande rémunération en récompense. Maintenant, le mot rémunération est une récompense donnée comme une forme de rétribution pour blessure ou préjudice subi. Dieu sait que tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Il nous donne donc la hardiesse ou le courage de rester debout quand nous avons fait tout ce que nous pouvons faire pour rester debout. Et par la foi et la patience, nous hériterons des promesses. Nous voyons encore dans 2 Thessaloniciens 1:4-5 « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. 5 Sester une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Et encore dans 2 Thessaloniciens 1:7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et nous voyons aussi dans 2 Thessaloniciens 1:10-12, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui y auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 11 Esther pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l'œuvre de votre foi. 12 Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Si nous recevions un signe manifeste que Dieu nous juge digne, nous recevons donc son état d'esprit ou sa mentalité, sa gloire, sa doxa. Remarquez que dans Jean 16:25-29 nous voyons Jésus dire aux disciples la chose suivante concernant cette parousia. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai, montrerai la parousia du Père. 26 En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. 27 Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. 28 Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. 29 Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles parousia, et tu n'emploies aucune parabole. Jésus, lui-même, est si plein de parousia qu'il dit que le jour où il révèle ou dévoile le Dieu puissant devant nous, nous entrerons aussi dans ce même état de parousia et nous n'y serons pas inhibés dans la prière que nous adressons à Dieu, sachant que notre relation avec le Père est le même que le sien. Nous connaîtrons les volontés et la pensée de Dieu. Il nous montrera la parousia. Cela vous fait savoir que nous obtenons cette parousia de quelque chose qui nous est montré ou qui nous est divulgué. Et donc, dont on nous a fait écho, et donc, nous en faisons écho à Dieu, d'où l'écho est venu initialement. Dans son serment la parole parlait Esther la semence originelle d'hymne 18 mars 62. Et frère, Branham dit, 420 remarquez, quelle harmonie. Jésus-Néhémie faisait jamais rien qu'il n'ait d'abord vu faire au Père, ou qu'Néhémie lui ait d'abord été montré par le Père. L'harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l'épouse. Et il lui montre sa parole de vie. C'est Esther lui qui la lui montre, et elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. Comme Jean dit, nous connaîtrons que nous faisons écho à sa parole et à sa vie. Rien ennemi peut lui nuire, pas même la mort. En effet, si la semence Esther mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. Amen. Et là, J'aime un gros Alléluia. Voici le secret. La parole Esther dont l'épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu'il veut qu'on fasse de la parole. Et elle le fait en son nom. Elle a ainsi dit le Seigneur. Ensuite, la parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à sa pleine croissance et qu'elle ait accompli son but. 421 Ils font uniquement sa volonté. Amen. Oui, je crois ça. Personne n'est mis peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car c'est Esther lui-même en eux qui continue à accomplir sa parole, comme il l'avait menée à terme à son époque. Toute chose, quand il était ici, il n'a pas tout mené à terme quand il était ici, car ce n'était pas encore le moment. Ainsi nous pouvons voir que c'est Esther Dieu qui produit en nous à la fois le vouloir et le faire. Et cela nous donne la parousia, nous savons que nous faisons écho à la vie. Dans notre texte, nous avons lu l'importance de savoir que nous faisons écho au Fils de Dieu. Et nous, avons découvert que cela nous fait entrer dans le repos et l'assurance de la foi. Dans le verset qui suit, nous trouvons l'évidence de notre parousia avec Dieu. 1 Jean 3.21 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de la parousia devant Dieu. L'état de notre cœur reste la seule force inhibitrice dans notre parousia envers Dieu. Comme nous l'avons vu plus tôt, notre parousia vient par sa foi. Nous sommes assurés de recevoir sa parousia si nous recevons sa foi. Si nous lui faisons écho, nous faisons écho au Père. Et comment Dieu pourrait-il vous condamner pour lui avoir fait écho? Chaque père veut que son enfant fasse son écho, et fasse écho à ses paroles. Dans 1 Jean 5.14 nous lisons, nous avons auprès de lui cette parousia, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Remarquez, ils ont dit selon sa volonté. C'est-à-dire ce que Jésus a dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je suis venu pour manifester ouvertement tes pensées et te faire écho. Quelle assurance non réfrénée, nous avons en lui, au point que nous sommes assurés qu'il nous entendra toujours. Pour terminer, ouvrons nos Bibles dans 1 Jean 5.13 et lisons une fois de plus le texte de notre sermon. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous faites écho à la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Inclinons nos têtes et nos cœurs dans la prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, janvier 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.